Cours de philosophie première par le Père Marie Dominique Philippe, le 4 octobre 2001 à Saint-Gédard.
Demandons aussi à Saint François de nous apprendre la vraie pauvreté intellectuelle, je parle, de l'intelligence, être des pauvres. Pour avancer toujours, pour progresser tout le temps. On a progressé jusqu'à la vision béatifique. Alors, on en a du chemin. Et c'est la vraie pauvreté, c'est justement de considérer qu'on est en route, in via, qu'on doit continuer toujours à chercher, à aller plus loin. Alors, je voulais vous situer ce que nous allons faire cette année-ci. Et j'ai repris la dernière fois le point de départ d'une philosophie réaliste qui est d'abord une philosophie humaine. En premier lieu, une philosophie humaine, il y a deux grands axes, le facere et l'agere. Je le dis en latin parce que ça passe mieux. Parce que en français, on dit le faire, ça ne passe pas très bien. Facere, réalisation, la réalisation. L'homme est fait pour réaliser quelque chose. Un gosse, quand il réalise au bord de la mer, dans le sable, quelque chose de beau, tout le monde doit le regarder. Le facere. Et l'agere qui vient après. C'est très important de comprendre cet ordre-là. Les premières rectifications se font à partir du facere, parce que c'est ce qu'il y a de plus immédiat. Nous avons tous l'expérience du facere. Faire quelque chose. Et puis l'agir. Alors l'agir, c'est justement un certain dépassement du facere qui fait que c'est l'immanence du vivant. Il réalise quelque chose. Faire. Et agir. L'intention. Vous voyez, les intentions en œuvre d'art, tu facturais, il faut que ça se réalise. Tu as de bonnes intentions, mais tu ne réalises rien. Et l'agiré, c'est au contraire les bonnes intentions. Et puis, en troisième lieu, le plan communautaire et politique et mondial aujourd'hui. Puisque le politique est très relativisé avec l'ensemble des pays, puisque on regarde surtout le point de vue économique. Il y a un point de vue politique est très changé. Du temps d'Aristote, l'agirer était premier au point de vue politique. De notre époque, le facere économique est premier. Et le point de vue de morale est second. C'est toute la transformation qui se fait. Et ce qui fait qu'on est devant une espèce de politique internationale. On ne peut plus agir seul. Bon, il y a quelque chose de tout à fait nouveau. Hein. Le pays, la patrie, elle est extrêmement amincie, diminuée. c'est avant tout être citoyen du monde, au point de vue économique. Ça explique du reste beaucoup de choses. Et puis, il y a quelque chose de plus profond en philosophie, c'est de connaître en premier lieu ce qu'est cet univers dans lequel je suis. Connaître le milieu, mais le connaître non pas comme milieu, mais par rapport à moi-même. Ce monde physique, qu'est-ce qu'il est exactement ? Qui joue une telle importance, qui a un rôle très grand, ce que les anciens appelaient la philosophie de la nature. On pourrait dire la philosophie de l'univers, du monde physique dans lequel je suis. Et ce monde physique implique les étoiles, implique le soleil et la lune. Je suis un homme dépendant de ce monde physique. Si ce monde physique connaît des modifications très grandes, ça a une répercussion sur moi. Par mon corps, je suis lié à lui. Alors, c'est extrêmement important de voir comment je suis une partie du monde et comment je suis au-dessus de ce monde. Ce monde physique qui m'enveloppe, qui me dépasse, sans me dépasser. Je suis plus que le monde astronomique, puisque je pense. Mais je suis dépendant du ciel et de la terre. Et c'est très vrai. Je suis au point de vue de mon corps et de ma vie humaine, corporelle, végétative, en dépendance de ce monde physique. Et en même temps, je le dépasse. Donc, l'étude du monde physique, ce que représente la nature. La nature végétative, mais non, d'abord la nature corporelle. Ensuite, la nature végétative. Dans ce monde apparaît la vie. Et l'inquiétude, savoir si dans la lune, il y avait la vie. Et on s'aperçoit que dans la lune, il n'y a pas de vie. Nous, nous sommes entourés d'un monde vital. On serait effrayé s'il n'y avait plus la vie autour de nous. On écrase les quantités de petits animaux en marchant, sans le savoir. Mais c'est bien évident qu'on est enveloppé par la vie. Alors, qu'est-ce que c'est que la vie ? Qu'est-ce que c'est qu'en nous, puisque l'homme est toujours le centre de ma philosophie, il ne faut jamais l'oublier, je ne quitte jamais l'homme, il y a en moi la vie. Il y a en moi la vie végétative, la vie sensible, la vie intellectuelle. Je résume, je suis la synthèse de toutes les vies, de toutes les vies que je connais. Est-ce qu'il y a une autre vie ? J'en sais rien. Et je regarde les relations entre l'être et la vie. Comme j'ai regardé les relations entre l'être et le monde physique. Je regarde les relations entre l'être et la vie. Puis en dernier lieu, il y a la métaphysique. Mais c'est curieux, du reste. Vous avez trois parties de vie pratique, de vie humaine, facere, agire, le point de vue de la communauté. Vous avez trois parties de vie spéculative, l'étude du mouvement physique, l'étude du monde physique, de la terre, le monde des vivants, que je fais à partir de l'homme. C'est difficile pour moi de saisir la vie d'une araignée, tandis que je peux, par rapport à moi-même, comprendre ce que l'araignée, qui n'a qu'une vie sensible, qu'une vie végétative, et une vie sensible. Parce que l'araignée a quand même quelque chose de plus que la vie physique. Elle a un irascible particulièrement développé. Il pique. Et l'homme, par son irascible, est quelquefois araignée. Il tend c'est très curieux, il tend des toiles d'araignée. Et puis, il attend que la mouche tombe dedans. Il y a des gens qui sont comme ça. C'est très curieux. Ils sont des araignées humaines qui tendent des pièges. Et puis ils attendent qu'on tombe dedans. Ils sont gendarmes de l'humanité. Et ils ont tendu des pièges. Et puis, en dernier lieu, l'homme, par l'intelligence, est capable d'atteindre l'être. Je dis dans mon langage « ceci est ». Et quand je dis « ceci est », je ne dis pas « ceci est un vivant ». L'araignée a la dignité de la vie. Mais au point de vue de l'être, elle a un être extrêmement végétatif, extrêmement limité. Combien de temps l'araignée peut vivre? Je ne sais pas, mais pas très longtemps. Et puis il y a donc ce que l'intelligence saisit dans la réalité en disant « ceci est ». Et l'intelligence est capable, par elle-même, d'essayer d'atteindre ce qu'est l'être. Vous voyez, on étudie successivement ce qu'est le devenir par la matière. La matière, c'est un être tout le temps en devenir. La matière n'existe que dans le devenir. La vie, l'immanence, le vivant, il est capable d'avoir une mémoire. Et le vivant, en tant que vivant, a une mémoire. Il emmagasine. C'est très curieux, ça. C'est le vivant. Et le vivant a une vie immanente. C'est pour ça qu'il emmagasine. Et plus il est vivant, plus il est immanent. Et la grande tentation, aujourd'hui, c'est de considérer que le vivant, c'est l'être. Vous voyez, dans la philosophie hegélienne, l'être est vivant. Le vivant est l'être. pas fait de distinction entre l'être et le vivant. Oui. La première grande distinction, point de vue philosophique, ça a été distinguer le devenir et l'être. La seconde distinction très importante, c'est distinguer l'être et la vie. Et dans l'être, essayer de préciser ce qu'il est. Et on a là la recherche de la substance. La substance, c'est la première détermination dans l'être. Principe, première. Et la première finalité dans l'être, ce qui finalise, c'est l'acte. La métaphysique a deux grandes parties, la recherche de la substance, la recherche de l'acte. Et la métaphysique ne dit rien en tant que métaphysique, hein. Elle le présuppose, mais elle ne regarde pas le devenir. Ça l'intéresse pas. Le devenir n'est pas encore être. Il devient. Il n'est pas encore être. Et quand il est être, il dépasse le devenir. L'intelligence est faite pour l'être et non pas pour le devenir. Au point de vue de l'être, l'intelligence est capable d'atteindre une sagesse, d'atteindre ce qui est premier dans l'être. Et ce sera cette découverte de l'être premier, Dieu. Voyez, la métaphysique conduit à la découverte de l'être absolu. Je ne peux pas découvrir d'absolu dans le devenir. Et dans le vivant, en tant qu'il est en devenir, il n'y a pas d'absolu. En tant qu'il est, alors il y a un absolu. L'être premier, Dieu. Qu'on appelle Dieu, qu'on a appelé Dieu. Et c'est très curieux de regarder dans toutes les langues, on a toujours donné un nom spécial à l'être premier. En découvrant l'être premier, je découvre quelque chose, quelqu'un qui me dépasse complètement. Mais ma relation avec cet être premier, c'est une relation qui montre que je suis dépendant de cet être premier dans mon être, dans ma vie. Et donc, je suis relatif à lui, au plus intime de mon être. Et j'aurai une dernière partie de la philosophie, qu'on appelle alors la théologie. Aristote l'appelle la théologie. Le mot théologie est d'abord naturel. Ça, c'est très important de se rappeler ça aujourd'hui. C'est le philosophe qui d'abord est théologien, d'une façon ultime, dans sa recherche de l'être. Dans sa recherche de l'être premier. Et il a le devoir de voir ce qu'on peut dire de cet être premier, Dieu. Et à partir de cet être premier, il peut estimer la valeur de tout ce qui est. tout ce qui est dépend de cet être premier dépend immédiatement ou médiatement. Alors, il dépend immédiatement par son intelligence, par sa volonté spirituelle, parce que cet être premier est au-delà de la matière, et seul l'être spirituel dépend directement de lui, ou il dépend de lui par l'intermédiaire des causalités secondes. Le monde matériel. Le monde matériel ne dépend pas directement dans sa conduite de l'être premier. Seul l'esprit dépend directement de l'être premier. Mais l'araignée ne dépend pas directement de Dieu. L'araignée dépend des causes secondes de l'univers. Quand il fait trop chaud, l'araignée disparaîtra. Tandis que quand il fait trop chaud, l'esprit ne disparaît pas. Mais il disparaît chez l'homme parce que l'homme a un corps et que son corps est toujours plus ou moins présent, plus ou moins. C'est très important de bien comprendre que seules les réalités spirituelles sont directement gouvernées par le Créateur, l'être premier. Et en ce sens-là, on peut dire que Dieu est Père des esprits. Tandis que Dieu n'est pas Père de l'araignée, n'est pas Père du crapaud, n'est pas Père de la vache. Ces réalités vivantes, mais qui ne sont pas spirituelles, dépendent de causes secondes, du milieu dans lequel elles sont. Et si le milieu reste un milieu vivable pour ces réalités, elles continueront de vivre. Si au contraire, le milieu n'est plus vivable, on verra ces espèces disparaître. Donc vous voyez, il y a quatre grandes parties spéculatives. On les nomme philosophie de la nature, philosophie du vivant, philosophie de l'être, et ensuite théologie naturelle, Dieu, le gouvernement de Dieu, le regard de sagesse de Dieu sur tout ce qui est. On est en face de quatre parties. Alors, de cette façon-là, vous voyez qu'il y a sept parties de la philosophie. La philosophie a sept demeures. La philosophie dite humaine est trois premières parties. La philosophie spéculative, c'est-à-dire qui recherche la vérité, elle dépasse l'homme. Elle part encore de l'homme, de son corps, par où il est matériel. Elle regarde le vivant, elle regarde l'être. Et en regardant l'être, elle regarde le premier dans l'ordre de l'être, qui est le premier dans l'ordre du vivant. Et qui est au-delà du monde physique. Et ce premier dans l'ordre de l'être et dans l'ordre de la vie, on l'appelle Dieu. À travers, du reste, des langages différents, on l'appelle m'appelle d'un nom spécial parce qu'il est premier dans l'ordre de l'être. S'il est premier dans l'ordre de l'être, il est premier dans l'ordre de la vie. Mais il est au-delà du monde matériel. Le premier dans l'ordre de l'être ne peut pas être matériel. Parce que s'il était matériel, il serait dans le devenir. Et il ne serait plus celui qui est. Et qui est totalement. Alors, vous voyez, à côté de cette recherche, le philosophe doit s'intéresser à tous ceux qui n'y arrivent pas. Pourquoi ? Notre intelligence peut arriver très bien à se nouer avec la vie et ne voir l'être qu'en fonction de la vie. On a des exemples très nets là-dessus. Platon, Hegel. Hegel, c'est notre Platon. C'est des philosophies extrêmement puissantes, mais il y a une erreur, c'est que la vie est l'être. Alors, si la vie est l'être, je ne peux plus découvrir Dieu comme transcendant. Je le découvre dans son immanence. Et le découvrant uniquement dans son immanence, je suis moi-même Dieu. Je me fais Dieu dans l'immanence pure. Et c'est sûrement l'erreur la plus difficile à dépasser, à montrer que l'être n'est pas la vie. En moi, être et vie, c'est vrai, tout ce qui est vivant existe, et tout ce qui existe en moi est vivant. Mais ce n'est pas vrai pour tout. Il y a des êtres qui peuvent être sans la vie. Ou parce qu'ils sont très petits, alors ils ne sont pas vivants. Ils existent, mais purement dans le devenir. Celui qui vit demeure au-delà du devenir, dans l'immanence. Alors, vous avez là le plan général de notre philosophie. Et vous comprenez bien qu'on ne voit pas tout. Mais il faut l'avoir toujours devant soi. Il faut avoir devant soi toutes ces recherches philosophiques. Si on n'a pas devant soi toutes ces recherches philosophiques, on fait de la partie un tout, ce qui est une très grave erreur. Et faire de la partie un tout, c'est justement tomber dans l'erreur hegelienne, tout ramener à la vie. Et dans mon langage, je suis bien obligé de reconnaître que je peux dire ceci est et qui n'est pas nécessairement vivant. Mais je n'ai que des exemples, moi, d'êtres vivants, sauf au point de vue intellectuel. Maintenant qu'on a été dans la Lune, on peut dire que dans la Lune, il n'y a pas de vie. La première recherche des cosmonautes, c'était de revoir si vraiment il y avait la vie. Eh bien, il n'y avait pas la vie. Et c'est très déroutant d'être dans un monde où il n'y a pas la vie. parce qu'on est tellement habitués, nous, tout ce qui est vivant. On est tellement habitués pour voir, hein, quand on voit quelque chose, qu'on se demande si les vivants ou si les morts, on le pique et on voit sa réaction. On voit le vivant par la réaction. Mais quand il est mort, il ne vit plus. Mais il existe. Et il y a une autre vie inférieure. On se dégrade toujours. De sorte que vous n'avez jamais rencontré, ici sur la terre, un être qui ne soit que dans le devenir. Vous seriez affolé. Vous avez la lune. Vous avez le soleil, vous avez les astres, mais vous ne les touchez pas. Hein. Vous ne touchez pas le soleil, sauf indirectement. Ça chauffe. Et vous ne touchez pas la lune, hein. C'est glacial. C'est deux extrêmes. Hein. Et ces deux extrêmes, on est bercé dedans. Le soleil, on en a besoin. Et la lune, elle est agréable, l'éclair de lune. Mais c'est glacial. Et l'intelligence seule, seule l'intelligence distingue l'être de la vie. Et parce que l'intelligence seule distingue l'être de la vie, la plupart du temps, on reste vis-à-vis de nos expériences sensibles. Vous n'avez jamais touché un être non vivant, c'est un mort, mais il vit quand même un mort. Il vit d'une autre façon. La preuve, c'est que si vous le laissez un certain temps en terre, il disparaît, il est complètement mangé. Il faut aller dans la lune pour trouver un monde non vivant où, cherchez bien, vous ne trouverez pas la vie. Alors, c'est une expérience que l'humanité a fait actuellement. Les cosmonautes sont des êtres vivants, sont nos frères. Ils ont fait cette expérience. C'est pas pour rien, je crois. Parce que le grand danger dans notre monde, c'est de confondre l'être et la vie. Hegel. Et en confondant l'être et la vie, on tombe dans une immanence parfaite et on ne découvre plus la transcendance. La transcendance, elle est découverte dans le fait que vous dites « Ceci est autre que moi. À côté de vous, vous avez quelqu'un qui existe et qui n'est pas vous. Mais il vit comme vous. Et alors, en tant qu'il vit comme vous, il y a une immanence qui se fait. Et cette immanence, elle se fait dans l'amitié. Mais c'est pas juste de dire que l'être qui est à côté de moi, c'est comme moi. Non, il est autre que moi. Et pour découvrir vraiment sa transcendance, je regarde son être. Son être n'est pas le mien. Sa vie peut être la mienne, mais son être n'est pas le mien. Sa vie peut être la même et je peux le considérer comme un ami. Et dès que je le considère comme un ami, je vois qu'il y a une fusion dans l'être. Il y a une fusion dans la vie, je veux dire. Nous vivons les mêmes, de la même manière en face de telle, telle réalité. Mais notre être est toujours différent. Et quand je ne vois que le point de vue de la vie, j'absorbe l'autre. y a comme une espèce de fusion qui n'est pas bonne, parce qu'il y a un manque de respect de l'autre. Et le respect de l'autre, c'est justement de considérer que c'est un autre être, différent du mien. Il n'y a que Dieu qui peut, lui, fusionner avec notre être, en le respectant totalement. Mais nous ne pouvons pas, nous, dès qu'on fait une fusion de l'être, ça ne va plus du tout. L'autre n'existe plus. Donc il manque un respect. Et le respect n'existe plus. Alors, où va se situer notre recherche ? Après la découverte métaphysique de la substance et de l'acte. La substance peut se définir la première détermination de l'ordre de l'être. La substance est quelque chose de premier. Rien n'est au-dessus de la substance dans l'ordre des déterminations, dans l'ordre des êtres existants. La détermination ultime que je suis capable de saisir, c'est la substance d'un être. Alors, la substance d'un être, vous voyez bien, est-ce que l'araignée a une substance ? Ah, là, c'est un gros problème. L'araignée a une nature, la nature d'araignée. C'est une bête particulière qui est charmante et qui présente ça, qui toujours montre sa présence en vous piquant. Il n'y a rien de plus charmant que ça, tu vois. Il y a des êtres humains qui sont comme ça, qui manifestent leur présence en vous piquant. Spirituellement, intellectuellement, ils sont comme des araignées. Et l'araignée vous pique physiquement. Il y a une petite tache après, ça se voit. Qu'est-ce qu'elle sait ? Elle essaie de sucer votre sang. Elle est avide de sang, l'araignée. Avide de sang. Alors elle suce votre sang. Et les araignées qui sont mortelles. Alors, le premier dans l'ordre de la détermination au point de vue de l'être, c'est la substance. Pour moi, c'est mon âme. Mon âme est substance. Première détermination. Et l'acte, c'est le premier dans l'ordre de la fin. Vous voyez, tout de suite, je vois au point de vue métaphysique la très grande différence entre la détermination et ce qui finalise. Ce qui finalise détermine, ce qui finalise attire, et ce qui détermine, c'est la forme dans l'immanence. Elle détermine. Je suis là en face de deux principes, de deux premiers. Le premier dans l'ordre de la détermination, le premier dans l'ordre de la fin. Et je peux alors me poser la question, comment le comment, hein, le pos, en philosophie, toujours bien distinguer le qui est-il, ce que cela est, et comment cela existe. Il y a une très grande distinction entre les deux. D'un côté, je saisis ce qui détermine radicalement ce qui finalise d'une façon ultime et le pose la manière d'exister. Quand j'atteins un principe métaphysique, la substance, quand j'atteins l'acte, je peux me demander ensuite comment cela existe. Alors, il y a un premier comment qui demeure au niveau même de ces réalités. Le comment premier de l'être, c'est sa propriété. L'être est un. Ah, c'est très important de découvrir ça, parce que un n'est pas le principe ultime, sauf chez les platoniciens, sauf chez les idéalistes. Pour eux, l'un, c'est ce qu'il y a de suprême. Il y a des gens qui trouvent que ce qu'il y a de plus grand dans une communauté, c'est qu'elle soit un. Tout le monde pense de la même façon. Ah, est-ce que c'est ce qu'il y a de plus grand dans la communauté humaine? Pour des vaches, oui. Mais pour des personnes humaines, non. Parce que nous avons une finalité. Et notre finalité, à nous, surnaturellement, elle est la même et elle est pour chacun unique. Je ne peux jamais imiter un homme jusqu'au bout. Imiter une femme jusqu'au bout, jamais. Ma finalité demeure personnelle. Je ne peux pas imiter en demeurant dans ma finalité. C'est ce qui explique qu'on est en face de Dieu, ma finalité, toujours seule. On meurt seul. On ne meurt jamais à deux. On voudrait bien quelquefois. Hein. Oui, je me rappelle ce petit film où on montrait la vieille personne. Là. Oh, je veux finir en même temps que toi. Alors on va mourir, on va boire tous les deux le même poison. Comme ça, on finira ensemble. La mort ne nous appartient pas. On voudrait bien, quelquefois, mourir en même temps que quelqu'un d'autre, parce qu'on l'aime tellement, on ne voit pas comment on pourrait vivre sans. Alors, on va mourir en même temps. Alors, on ne peut pas. J'ai pas le droit, j'ai pas de droit sur ma mort. Donc, au fond, on ne peut pas imiter jusqu'au bout. On peut imiter dans l'ordre des moyens, dans l'ordre des voies d'accès, des méthodes. Mais il y a toujours quelque chose d'unique. Chacun d'entre nous, nous sommes uniques dans notre finalité. Et ça, Dieu le sait, on est unique. Unique dans l'être, dans le bien, dans la fin. Il n'y a que Dieu qui transcende. Dieu est unique pour chacun. C'est mon Dieu. Et c'est Dieu. Alors, je comprends. Comment je peux dire que tout principe est un? Mon âme a son indivisibilité et ma fin a son indivisibilité. Elle est une. la propriété, alors on dira, la propriété de la substance, c'est d'être une. La propriété de l'acte, c'est d'être un. Il y aura donc, et ça qui est très intéressant à voir, il y aura donc deux manières d'être un, par sa substance et par sa fin. Notre unité dans notre substance, dans notre âme, c'est notre individualité. Nous sommes un dans notre individualité. Et nous avons tous ce privilège d'être uniques dans notre individualité. Et puis, nous sommes un dans notre finalité, dans notre sainteté. Nous sommes uniques. C'est très juste de dire ça. Mais je puis essayer de comprendre comment ces deux unités vont s'unir. Mon unité dans ma substance, dans mon âme, et mon unité finale. Ne sont pas irréductibles l'une par rapport à l'autre, parce que je suis une personne. Et ma personne, elle est une quant à sa forme, elle est une quant à sa fin. Je suis une personne. Alors, au-delà de cette unité, de l'unité et de la fin, il y a cette manière de vivre cela. Je vis de cette unité de ma substance. Je vis de cette unité de la finalité. Il y a une manière particulière de la vivre dans ma personne. Ma personne fait une unité ultime et dernière de mon âme et de mon corps. Quand il y a une division entre l'âme et le corps, ma personnalité est un peu malade. Il y a une unité ultime qui est l'unité de la personne. Bien, c'est cette unité ultime de la personne que nous allons essayer de comprendre. Toute ma métaphysique, ma philosophie métaphysique, la recherche de l'âme, la recherche de la substance, la recherche de l'acte, tout cela se concrétise dans la personne humaine. Et aujourd'hui, la personne humaine, on l'étudie de multiples façons. On l'étudie au point de vue psychologique, c'est pas suffisant. On doit étudier la personne au niveau métaphysique. Et comprendre que l'ultime moment de ma métaphysique, qui est de découvrir un être premier, ne peut se faire que à partir de la personne humaine. Et c'est à l'intérieur de cette découverte de la personne humaine que je puis découvrir qu'il existe une personne transcendante avant cette personne humaine qui est Dieu. Je découvre l'existence de Dieu, non pas par le point de vue de la nature, mais par le point de vue de la personne. C'est, je crois, très important de comprendre cela. Et même la personne, elle est parfaitement elle-même quand elle aime quelqu'un. Et donc, je crois qu'on ne peut découvrir l'existence de Dieu qu'à partir de l'amitié et dans l'amitié. Il faut deux personnes humaines pour découvrir que Dieu existe. Si je suis solitaire, complètement solitaire, je peux, à partir de ma personne, découvrir l'existence de Dieu. Je peux. Mais si j'ai recours à mon ami, nous sommes deux à rechercher l'existence du premier. Et à deux, comme c'est très difficile de découvrir l'existence de Dieu, on découvre l'existence de Dieu d'une manière plus profonde, plus réaliste. C'est pour ça que ce problème de la personne est si important. Vous voyez, dans la philosophie d'Aristote, cette philosophie, cette métaphysique, ne se termine pas par la recherche de la personne. Et c'est pour ça que par rapport à la recherche de l'existence de Dieu, ça reste très délicat, très difficile, parce que ça se fait par la nature. Au-delà de la nature, il y a la personne. La personne, c'est une substance. La personne, c'est quelqu'un de finalisé. On n'est pas une personne si on n'est pas finalisé. On est alors tout simplement un numéro, un individu qui vote et qui ne sait pas très bien ce qu'il fait. C'est vrai, quand l'humanité n'est plus finalisée, l'humanité, alors, à ce moment-là, est capable de suivre un Führer. Elle n'est plus capable de trouver sa propre finalité personnelle. Elle suit un Führer. Pour nous, notre unique Führer, c'est le Christ, au point de vue chrétien. Et au point de vue philosophique, notre unique personne qui nous finalise, ça ne peut être que Dieu. Vous ne pouvez être finalisé que par Dieu, dans votre intelligence. Si votre intelligence se développe et s'est développé au plan métaphysique, vous ne pouvez découvrir comme finalité que Dieu. Mais vous le découvrez à partir de votre personne. Je crois très important cela. Et là, on explicite beaucoup la philosophie d'Aristote. On peut dire que la personne, elle est déjà présente dans la philosophie stoïcienne. Elle est déjà présente. Mais la personne va sûrement se développer beaucoup au point de vue de la foi, au point de vue chrétien. Et ce développement de la foi au point de vue chrétien réclame que le philosophe essaie de comprendre qu'est-ce que c'est que la personne. Oui. Je crois qu'il y a là un problème à la fois très moderne, puisque toutes les philosophies contemporaines tournent autour de la personne, toujours. Et les conceptions de la personne par rapport à ces philosophies sont très diverses. Très diverses. Et elles sont intéressantes de rester à voir. Nous n'aurons pas le temps de faire cette topique, mais elle est facile à faire. Quand vous lisez un philosophe qui n'est pas aristotélicien, qui n'est pas réaliste, qu'est-ce que c'est que la personne ? Qu'est-ce que c'est que la personne pour Hegel ? Qu'est-ce que c'est que la personne pour un néoplatonicien ? Qu'est-ce que c'est que la personne pour un philosophe qui s'est mis à l'école d'Aristote ? Et je pose tout de suite un problème. C'est cela que nous allons essayer d'étudier ensemble. Saint Thomas, il faut voir, Saint Thomas, quand il parle de la personne, revient toujours sur Boès. Or, Boès est un logicien. Donc, il ne peut pas nous montrer ce qu'est la personne. La personne, au point de vue logique, c'est un sujet. Il est intelligent. Il est artiste, il est fin, il pèse tant, il est gros, il mesure tant. C'est un sujet. Un sujet de tous les attributs. Vous êtes chacun d'entre vous porteur de tous ces attributs. C'est votre carte d'identité. Pour vous dépister, hein. Vous savez, il mesure tant. Alors, vous les dépistez, tous les gens, en mûrtant. Si vous êtes un criminel, votre carte d'identité, elle sert à vous poursuivre. Mais elle ne donne pas vraiment ce que c'est qu'une personne humaine, parce que c'est un ensemble de qualités. Et on dira, oui, on veut voir cette personne. Elle est terriblement irascible. Faites attention. Ne mettez pas en colère. Que vous ne saurez pas plus où vous mettre. Oh, cette personne est très douce, très affable, très gentille. Ça ne définit pas la personne, ça, c'est psychologiquement. C'est très intéressant de regarder toutes les définitions de la personne. Et puis alors, nous allons, nous, au point de vue philosophique, essayer de définir qu'est-ce que c'est que la personne. Vous voyez, c'est pas un TST, c'est un POS. Ça vous dit rien du tout ça. TST, ce qu'est la chose, un principe. Le POS, comment est la réalité.